Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Protection des civils, quelle convergence entre les différentes sources de droit au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Moussa Itouré, directeur de l'appel de Genève ou Geneva Call, dédié Hamasango, communicateur traditionnel, et Baba Dakono, juriste chercheur. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La protection des civils, une question qui inquiète bon nombre de Maliens aujourd'hui. Monsieur Touré, quelle est la situation par rapport à cette question dans le pays?
Merci, Monsieur Touré, de nous offrir l'opportunité vraiment de parler sur votre studio. Je me réjouis vraiment de prendre la parole pour évoquer cette question. Effectivement, l'état de lieu par rapport à la protection des civils au Mali, c'est aujourd'hui une grande préoccupation. Quand nous suivons les récents événements qui se sont déroulés à Ouagadougou, qui ont vraiment fait couler beaucoup d'encre, qui est quand même une illustration parmi tant d'autres, où des femmes, des enfants, n'est-ce pas, ont perdu la vie. Et au récent, selon le dernier rapport, n'est-ce pas, du secrétaire général des Nations Unies, qui fait cas de 109 attaques, où la plupart ce sont des civils. Donc, il y a lieu, de mon point de vue, de tirer sur la sonnette d'alarme par rapport, n'est-ce pas, à la situation de la protection des civils au Mali. Quand on dénombre les différentes attaques perpétrées, que ce soit, n'est-ce pas, sur des villages, que ce soit des explosions d'engins, n'est-ce pas, ou bien que ce soit des embuscades, on réalise au bout du compte que c'est toujours des civils, n'est-ce pas, qui perdent la vie, des innocentes populations qui n'ont ni de loin ni de près à voir avec le conflit. Donc c'est une préoccupation, c'est pourquoi nous voulons attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette problématique afin qu'ensemble nous puissions réfléchir et mettre vraiment le curseur sur ce fléau afin que les uns et les autres puissent s'impliquer à voir dans quelle mesure on va se donner la main pour contribuer à minimiser cette situation sur les civils.
Tadia Massango, quelle est votre lecture par rapport à la protection des civils au Mali?
Merci. Je m'appelle Diadji Hamasango. Je suis communicateur traditionniste, chercheur. Mais je voudrais, à prime abord, que l'on précise et qu'on achève la question. La protection des civils en période de conflit. Parce que c'est tout ce qui fait problème. On parle de la protection des civils en période de conflit parce que ce qui se passe est en porte-à-faux avec nos us, nos mœurs et nos coutumes en période de guerre. Quand il y a conflit, le conflit intéresse des groupes armés, étatiques ou belligérants, révolutionnaires ou etc. C'est en tout cas entre des groupes armés et c'est eux qui s'entretuent. Et la tuerie ne concerne pas les femmes et les enfants, les personnes âgées. Donc, la société civile.
Mais quand on voit la situation au centre du Mali...
Mais aujourd'hui, pas que le centre du Mali seulement. Avant le centre du Mali, il y avait les Aguelok. Il y a eu beaucoup de situations où on a heurté l'opinion, la sensibilité nationale, internationale. On a violé les us, les mœurs et les coutumes, peut-être pour faire sensation. Le sociologue pourra en parler. On a brûlé les interdits. Il y a eu des... etc. Et quand on voit ce qui se passe, il y a lieu de se poser la question. Que nous arrive-t-il? En tout cas, ce qui s'est passé et qui se passe, que ce soit au centre du pays ou avant, c'est contrairement en porte-à-faux. Mais
juste pour avoir plus de précision, au-delà du conflit entre groupes armés, est-ce que ça, la situation ne va pas au-delà du conflit entre groupes? Est-ce que ce n'est pas devenu un conflit entre communautés même?
Il y a comme une démarche, un processus intelligent, volontariste, pour arriver à ça. C'est comme une instrumentalisation de la situation pour arriver, non pas à un affrontement entre groupes armés ou idéologies, mais pour en faire un affrontement intercommunautaire. on est allé vers, on va vers cette démarche-là. D'accord. C'est comme calculé, voulu et recherché.
Baba Dakono, les civils sont-ils protégés au Mali?
Assurément non, parce que ceux qui sont même chargés d'assurer la protection des civils peinent à assurer leur propre sécurité, que ce soit les forces armées internationales à l'exemple de la MINUSMA ou que ce soit les forces de défense maliennes qui sont aujourd'hui chargées d'assurer la sécurité des communautés, de leurs biens, y parviennent difficilement. Et d'ailleurs, quand on voit l'émergence de groupes d'autodéfense ou des milices armées, c'est expliqué justement par l'absence d'offres de sécurité. Les communautés sentant l'insécurité grandissante, se sont organisés pour assurer leur sécurité elles-mêmes. Donc, assurément, non. La réponse à cette question, c'est non. Mais je voudrais revenir un peu sur l'état de la protection des civils. Après la mise en contexte faite par M. Sango tout à l'heure, pour dire que Ouagadougou, le massacre qui s'est fait à Ouagadougou est un peu révélateur de la situation actuelle. C'est-à-dire que l'on voit des acteurs armés tuer des enfants, des nourrissons, des femmes enceintes. Ça prouve simplement qu'aujourd'hui, la violence a atteint son paroxysme dans le pays. Et quelqu'un disait en fait que Ouagadougou, c'était le pic de la violence. Mais Ouagadougou, ça a permis d'attirer l'attention de tout le monde sur ce qui se passe. Mais cette violence n'est pas qu'on a vue à Ouagadougou n'est pas inédite. À Ménaka, des gens sont tués régulièrement. Et quand on pose des engins explosifs, on ne choisit pas les victimes. Les véhicules de forain entre Ansongo et Ménaka qui sautent sur des engins explosifs, ça tue des femmes, des enfants et des femmes enceintes souvent. Donc, La violence a atteint son paroxysme et on ne choisit plus la cible dans le pays. Et c'est ce qui explique ce témoi qui a suscité Ouagadougou. Mais il est important de rappeler qu'avant Ouagadougou, le pays, ça fait des années dans une spirale de violence et qu'il ne choisit plus les cibles.
Alors, est-ce que la situation s'est dégradée davantage depuis 10 ans ou depuis 20 ans?
La situation s'est dégradée depuis quelques années. Je ne pourrais pas situer exactement à partir de quel moment on a connu ce tournant. Mais même si on prend le début de la crise à 2018, il y a des tournants. Parce que ce qui menace aujourd'hui la sécurité, c'est principalement trois phénomènes. L'extrémisme violent, donc toutes les activités liées au fait des terroristes. Et ce sont les conflits intra- et intercommunautaires, donc les violences armées qui sévissent entre différentes communautés. Et ce sont les faits de groupes, de réseaux de trafic, on va dire de la criminalité organisée transnationale. Et malheureusement, tous ces phénomènes ont trouvé des bases locales. C'est-à-dire en 2012, si on avait des combattants qui étaient venus ou revenus de Libye, d'Algérie, d'autres pays, aujourd'hui, de plus en plus, dans ces groupes, nous avons des combattants qui sont issus des communautés où ces groupes-là sont actifs. Que ce soit le phénomène de l'extrémisme violent ou même les conflits qui traditionnellement opposent des gens qui sont établis dans les localités où les conflits se vivent. Donc, on a une endogénisation de la base combattante qui fait que la violence est beaucoup plus localisée. Donc, si avant on avait, et dans le cadre spécifique de l'extrémisme violent, il y avait le choix des cibles. Et les cibles, c'était l'État, principalement à travers ses représentants. Donc, comme l'État était dans la plupart de ses localités, le seul symbole visible de l'État, c'était les forces armées et de sécurité. Donc, c'était eux qui subissaient le plus ces attaques-là. Mais aujourd'hui, il y a comme un changement de paradigme qui explique peut-être cette endogénisation de la menace, mais également le fait qu'il y a une multitude de groupes qui se sont rejoints à la cause des groupes extrémistes violents actifs dans le pays, qui fait que finalement, ce n'est plus les cibles étatiques qui sont privilégiées, mais tout ce qui peut faire, tout ce qui peut susciter l'émoi, tout ce qui peut rappeler leur présence est fait pour attirer l'attention eux sur eux et sur leur activité.
Moussa Touré, quelles sont les causes de cette situation selon vous?
Bien, effectivement, je pense que Baba l'a abordé. Par rapport vraiment à la dégradation de cette situation, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment la communautarisation de la violence, parce que le monopole de la violence est entre des mains des gens qui ne sont pas qualifiés pour cela, des communautés qui s'organisent en groupes armés ou bien des groupes armés, n'est-ce pas, qui ignorent très peu ou presque pas, n'est-ce pas, les normes internationales humanitaires. Donc, les mécanismes permettant vraiment d'orienter ou bien d'informer par rapport au droit de conflit armé, ces mécanismes sont quasi inexistants. Donc ce qui fait que même en cas de déclenchement d'hostilité, ces acteurs, ils ont très peu le souci vraiment de qui il faut combattre et qui il ne faut pas combattre. C'est-à-dire, ils n'ont pas assez connaissance des règles vraiment qui régissent vraiment le conflit armé. Parce que par le droit international humanitaire fait bien la distinction entre qu'est-ce qui est objectif militaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est population civile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ces populations, ces acteurs-là, ces acteurs armés, ils ont une connaissance assez limitée. Donc il y en a qui ne connaissent pratiquement pas, n'est-ce pas, le droit international humanitaire. Donc ce qui fait que... En cas de violence, ils font l'amalgame, ils n'épargnent personne, ils n'épargnent pas les femmes, ils n'épargnent pas les enfants. Et c'est des choses qui sont vraiment admises dans nos coutumes. Et par rapport aux différentes sources du droit, nous venons récemment d'organiser une table ronde de réflexion sur les convergences entre les différentes sources du droit, où l'idée c'est vraiment de trouver les points de jonction entre les différentes sources du droit qui contribuent à la protection des civils. Et il est admis que toutes les sources du droit ont cette convergence minimale par rapport à la protection de la vie humaine, que ce soit le droit international humanitaire, que ce soit le droit coutumier ou bien le droit islamique. Et tous admettent qu'en cas de conflit armé, la vie humaine doit être épargnée à partir du moment où cette personne ne participe pas directement aux hostilités. Et il ressort de constat que les acteurs que nous avons présentement sur ce terrain ne se sont pas appropriés ce principe-là d'épargner les civils en cas d'éclatement vraiment de violence. Donc tout ce qui fait que nous, on est aussi en train vraiment d'entreprendre des mécanismes pour pouvoir les encadrer afin qu'en cas de conflit armé, ils puissent vraiment... épargner ces civils-là.
Alors, vous l'aviez souligné, cette situation va à l'encontre de nos us et coutumes. Alors, qu'est-ce que le droit coutumier dit par rapport à la protection des civils?
Alors, le droit coutumier en matière de guerre protège jusqu'au dernier millimètre les civils. Si vous prenez les adages et les proverbes qui magnifient le combat et les combattants, ils vous disent tous que la guerre est une affaire d'hommes. C'est-à-dire que c'est entre homme et homme, man et man, karsa ni karsa, filan de filan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'objet de la guerre, c'est une des trois choses. C'est la femme, c'est l'honneur ou la colère. C'est une de ces trois choses-là qui motive la guerre. Et dans la plupart de nos empires médiévaux, derrière le désir d'expansion du territoire, il y a aussi le désir d'expansion de la renommée. Et cette renommée, elle se traduit par quoi? Par le nombre d'esclaves qu'on a capturés à la guerre. Et ces esclaves-là, c'est le butin de guerre. Ça fait partie des objectifs, des recettes de la guerre. Et ce n'est pas pour les tuer. On ne les tue jamais. Les femmes, on en fait des concubines. Les femmes, on en fait des esclaves au fond de la case. Des femmes, on en fait des monnaies de change. Les jeunes garçons, on les domestique. Dans des situations précises, on en fait des palefreniers, on en fait des etc. et on en fait même des soldats. Donc, on ne tue jamais la société civile.
Mais était-ce une protection quand on fait de la femme une concubine ou une esclave?
Entre tuer la femme et en faire une concubine, il y a un pas. Aussi, c'est que la société traditionnelle dit ce droit-là qu'on n'a pas écrit. L'Européen n'a pas écrit ça. Un esclave dans les empires a le droit de racheter sa liberté. Il les rachète par ses hauts faits de guerre, il les rachète par ses économies, il les rachète par sa coquetterie. Et vous allez vérifier et fouiller dans nos différents empires, bien de modifications du cours de l'histoire sont arrivées par les femmes, par leur coquetterie. Alors, Je voudrais simplement rebondir sur ce que le sociologue et Moussa ont dit. Aujourd'hui, au Mali, au début, c'était un affrontement entre symboles de l'État et groupes armés. Mais nous avons comme l'impression que la chose est gérée de quelque part ou de l'extérieur, où chaque fois qu'il y a une situation d'accalmie, il y a un massacre quelque part pour faire rebondir la chose. C'est comme si on nous invitait à des formes de distraction pour ne pas nous concentrer sur l'essentiel. Il y a le principal motif de revendication depuis les rébellions de 1963 jusqu'à celle de 2012. Le fond que l'on demande, c'est une malgouvernance. Et à tous les coups, on s'est attaqué au symbole de l'État, mais à tous les coups, on a trouvé des recettes pour calmer la situation et calmer le jeu. Mais cette fois-ci, on a non seulement internationalisé le combat, parce qu'on a traduit ça par un massacre de Peul, et les Peul ont vite crié extermination, génocide, etc. Il n'en est rien. Et ce qui est dangereux, c'est que la race Peul, c'est la race africaine par excellence. Elle va de Saint-Louis du Sénégal jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Tous les pays ont leur Peul. Nous, Mali, on n'a pas intérêt à tuer nos Peul. Alors, je dis, il y a à réfléchir. Il y a à réfléchir.
Mais de la façon dont vous le dites, est-ce qu'on veut tuer les Peul?
Mais c'est cette impression-là qu'on a donnée. Quand vous voyez un village Peul entier massacré, quelle est votre réaction? Et on remet encore le massacre sur un autre village. Qu'allez-vous dire? Mais c'est pour faire sensation. C'est pour frapper notre imagination. Il n'en est rien. C'est simplement pour amplifier le combat et nous distraire et nous empêcher de vérifier. Il y a des gens que ce conflit-là intéresse.
Baba Dakono, pensez-vous qu'il y a une main invisible derrière cette situation?
Je pense qu'on a beaucoup extrapolé sur cette situation. En réalité, quand un conflit naît, que ce soit au Mali, tous les types de conflits, il y a toujours des acteurs qu'on appelle les entrepreneurs du conflit, c'est-à-dire les gens qui tirent profit du conflit. Ce sont souvent des acteurs internes, des acteurs locaux, donc issus des localités où les conflits se passent. Ce sont souvent des acteurs externes. Donc toute personne qui a intérêt à ce que le, ou qui tire un intérêt quelconque du conflit. Donc ce sont ces gens qui font en sorte que le conflit ne finisse jamais, puisqu'ils vivent du conflit ou ils ont leur intérêt dans le conflit. Donc ce qui se passe au Mali ne fait pas exception à cette règle. Donc tout conflit a ses entrepreneurs.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que les populations elles-mêmes veulent que la situation soit stable?
Oui, parce que encore une fois, il est important de revenir au fondement. C'est aujourd'hui, par exemple, on entend beaucoup parler de désarmement des groupes d'autodéfense. Et à titre d'exemple, on a parlé du désarmement d'Alain Massagou. Et à l'époque, c'est ce qu'on disait. C'est pas évident que l'État puisse désarmer d'Alain Massagou dans le contexte actuel, parce que les communautés elles-mêmes vont s'opposer au désarmement d'Alain Massagou. Pour aller au désarmement d'Alain Massagou, il faut se rappeler dans quel contexte ou dans quelles conditions d'Alain Massagou s'est armé. Et ce n'est pas le seul acteur armé. Il y a les groupes armés, mais dans ces localités, c'est-à-dire dans le centre, je ne parle pas que du centre, même au nord, je parle des localités qui sont sur la bande frontalière Mali-Niger, vous allez difficilement rencontrer un berger qui n'a pas son arme. C'est parce qu'il y a cette méfiance, il n'y a plus cette confiance en l'État malien pour assurer la sécurité, l'État malien et ses partenaires, qui d'ailleurs pour certains ont été pris dans l'état de cette violence armée et dont l'apport militaire est instrumentalisé de part et d'autre, tout comme le fait terroriste est instrumentalisé aujourd'hui. Donc il réduit l'efficacité de ces interventions militaires dans des contextes conflictuels très complexes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en filigrane de la percée des groupes extrémistes violents, il y a les conflits historiques qui ont toujours opposé certaines communautés. Donc, que ce soit l'intervention armée extérieure ou même autre type d'intervention, ça amplifie en fait ces clivages qui sont historiques entre certaines communautés et qui se font sur fond de lutte de pouvoir au plan local qui perdure dans ces localités-là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte pour comprendre la situation et finalement pacifier cette zone pour qu'on revienne à ces contextes d'antan où justement les conflits ont toujours opposé des groupes socioprofessionnels, que ce soit des communautés, que ce soit agriculteurs, éleveurs ou autres types d'acteurs économiques, mais pas au final qu'on trouvait toujours la solution, soit par les mécanismes traditionnels ou par d'autres types de moyens, mais qu'on n'entrait pas dans la violence qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il est très important à ce niveau de profiter de la science de M. Sango et de tous les autres qui sont dépositaires de ces connaissances-là pour interroger les pratiques, pour savoir dans quelle mesure, pour revenir au thème qui est la protection des civils, qu'est-ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs armés, il est possible aujourd'hui qu'on puisse dire que les acteurs armés locaux ne connaissent pas le droit international humanitaire? C'est pas la peine de venir les expliquer c'est quoi le droit international humanitaire en matière de protection des civils, mais leur histoire leur parle. Ils ont tous une culture et leur culture leur parle. Et on est d'accord que, à minimum, toutes les cultures convergent vers cet aspect de belligérance armée exclusivement. C'est-à-dire, les affrontements, c'est entre acteurs armés. Ceux qui ne sont pas armés ne sont pas concernés par la lutte armée. Et même parce que la protection des civils, c'est deux niveaux. C'est avant, pendant le combat et aussi après. Il y a des gens qui sont faits prisonniers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des exécutions sommaires, c'est des règlements de compte, des assassinats certains ciblés. Donc tout ça ne font pas partie des coutumes et des pratiques. Donc il est très important de revenir à ça. Et si on doit faire des sessions d'explication pédagogique, qu'on ne le fasse pas sur la base du droit international humanitaire qui a trouvé au sein des sociétés africaines, dans leur majorité, des pratiques de respect des droits humains.
D'accord, je reviens à vous tout de suite. Vous avez cité quelques causes des différents conflits. Parmi ces causes, vous avez parlé des femmes. Est-ce que dans le conflit dans lequel on se trouve aujourd'hui au Mali, les femmes ont joué un rôle?
Non, j'y précise que ce qui oppose les hommes, je veux dire, c'est trois choses. C'est l'argent, c'est l'honneur et c'est la femme. Et je disais que l'histoire même est mue par la femme. Pour ce qui se passe précisément au Mali, on a toujours dit la raison principale, c'est une malgouvernance pour laquelle les peuples Touareg ou Tamasheq du Nord se sont toujours rebellés contre le régime en place. On a toujours trouvé des mécanismes pour s'entendre, pour arriver à la paix. Mais maintenant, il y a une dimension internationale de ce que nous connaissons et ce qu'il a appelé les sous-traitants du conflit. Et ces sous-traitants-là, nous avons l'impression qu'ils gèrent de manière méthodique la chose et en violation de tous nos us et coutumes que nous connaissons. Et comme Baba l'a dit, il y a au niveau de chaque groupe ethnique des recettes pour calmer, pour négocier, pour aplanir. Et ces recettes-là, s'ils interrogent la société traditionnelle, ils vont les remettre à l'honneur.
D'accord, on va parler de ça tout de suite.
On n'est pas arrivé à ça,
dans les solutions.
Mais c'est de ça qu'il s'est agi.
Est-ce que l'internationalisation, comme le dit M. Sango, du conflit malien a été positive ou négative pour le Mali?
Non, moi, par rapport à cette question, je pense que il est difficile à ce stade vraiment de tirer un bilan parce que la situation est telle que nous vivons encore le conflit. Moi, je pense qu'en termes de partage d'expérience pour pouvoir évaluer l'expérience Mali, je pense que c'est lorsque nous sommes en phase de sortir de la crise. Et actuellement, au regard de la situation à laquelle nous assistons, il serait peut-être très tôt vraiment de tirer un bilan à ce niveau. Je pense que à vouloir mettre ce facteur-là exclusivement sur le facteur international, on va peut-être passer aussi à côté. Il y a aussi des facteurs très endogènes qui ne sont pas assez négligeables, notamment ces entrepreneurs locaux qui tirent assez profond.
On va en parler petit à petit. Maintenant, Il y a aujourd'hui, comme le dit M. Sango, avant on ne faisait pas appel à ces comment dirais-je, forces internationales. Mais pour cette fois-ci, il y a eu la MINUSMA, il y a eu Barkhane, il y a eu même la force G5 Sahel qui est régionale. Est-ce que ça a été un plus pour le Mali ou est-ce que ça n'a pas servi à grand-chose?
Bon, ben ça a ses avantages et ses inconvénients. Les forces internationales, c'est vrai, quoi qu'on dise, ont joué un grand rôle dans le processus de stabilisation du Mali. Que ce soit la MINUSMA ou bien Barkhane, mais aussi par rapport aux aspects négatifs aussi, il y a échangé sur le terrain avec certains acteurs qui estiment que la présence de ces forces, par exemple, contribue vraiment à la cherté de la vie. Donc c'est à relativiser. Pour qui connaît également la manne financière vraiment que ces forces génèrent sur le Mali, je pense que ça dépend au fait de l'angle sous lequel on analyse. Donc ça, ses avantages, mais aussi ça aussi, ses inconvénients. Donc c'est à relativiser. À vouloir le classer sous l'angle exclusivement négatif, je pense qu'on va passer à côté.
D'accord, Baba Dakoun. Si beaucoup de gens rappellent cette expression d'un ancien président français qui dit que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Alors, est-ce que ces forces internationales sont au Mali pour le Mali ou est-ce qu'elles sont là pour leurs intérêts?
Déjà, ces forces internationales sont au Mali sur appel du Mali, même si on peut toujours épiloguer sur les conditions dans lesquelles ces forces sont intervenues. Peut-être ces conditions ont été créées, peut-être ces forces internationales ont contribué à la création de ces conditions, mais il est important de savoir que ces forces sont au Mali à la demande du Mali. Donc c'est un choix. On peut être d'accord ou ne pas d'accord avec ce choix, mais elles ne sont pas venues d'elles-mêmes. Mais au-delà de ces forces internationales, le problème sécuritaire au Mali, plus on analyse, plus on se rend compte que ce n'est pas un problème strictement ou exclusivement militaire. C'est-à-dire, c'est important que le contexte soit pacifié, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire qu'il y ait une intervention militaire, mais qui doit être vue vraiment à court terme, c'est-à-dire au maximum une année pour pouvoir pacifier la zone. Mais quand on regarde, j'ai parlé des trois phénomènes sécuritaires, extrémisme violent, criminalité organisée transnationale, conflit intra- et intercommunautaire. Ces phénomènes sécuritaires prospèrent sur des facteurs endogènes et des facteurs structurels qui mettent aux prises d'abord la gouvernance. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas, et ça ce n'est pas propre au Mali, aujourd'hui on voit la menace est descendue dans le centre du Mali, et c'est au Burkina maintenant c'est à la région de l'Est, et vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines à la frontière avec le Bénin. Aujourd'hui, la menace est pratiquement sur les pays de la côte, le Bénin, le Togo, le Ghana. Donc, quand on voit l'évolution de la menace, elle évolue sur les failles de la gouvernance des États. Et malheureusement, ces groupes, que ce soit ceux qui appartiennent aux groupes extrémistes violents ou aux réseaux criminels, ont cette capacité à identifier les failles dans la gouvernance, les frustrations des communautés et les clivages entre elles pour les retourner contre l'État ou pour l'exploiter, pour s'implanter. Donc tant qu'on n'a pas, tant que les solutions elles-mêmes n'ont pas intégré cette dynamique-là, d'abord l'amélioration de la gouvernance, l'identification des clivages sociaux pour essayer d'y répondre et surtout la frustration des communautés qu'on retourne contre les États. Je retourne au Mali pour prendre l'exemple du Mali, pour dire que même avec l'arrivée de la MINUSMA, dans son mandat, c'était quoi? Aider le Mali à restaurer l'autorité de l'État. En fait, le problème du Mali, ce n'est pas seulement la restauration de l'autorité de l'État, mais quelle utilité de l'État pour les communautés. S'il s'agit de restaurer l'État dans sa forme ancienne, où c'était la présence symbolique du bâtiment, un représentant qui est décrié par les communautés, une justice qui crée beaucoup plus de problèmes qu'elle ne le résout, c'est vraiment pas la peine, c'est qu'on va revivre, ce sera un éternel recommencement. Donc, le tout n'est pas militaire, que ce soit les forces internationales ou les forces nationales, leur marge de manœuvre elle est très limitée et elle doit être vraiment revue dans le court terme. Au-delà des questions militaires, il faut prendre en compte les facteurs sur lesquels prospèrent les menaces à la sécurité et elles ne sont pas du tout militaires.
D'accord.
Oui, parlons. Ils ne sont pas du tout militaires, les facteurs.
Parlons des solutions. Aujourd'hui, quand on analyse avant, quelles étaient les solutions proposées par nos juges écoutants?
Merci. Et j'invite mon fils à aller au Mont. L'internationalisation du conflit sur la bande, sur les pays du champ, il faut avoir le courage de le dénoncer. Cette instrumentalisation-là, les failles sur lesquelles prospèrent les conflits, les systèmes de retournement des populations, ce sont des systèmes calculés, voulus et réfléchis à ces fins-là. Et quand la MINUSMA est venue pour aider le Mali à restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, on connaît les limites que la MINUSMA s'est imposées et les pratiques. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire parce que nous sommes chez nous. Je vais juste proposer une solution qui est une solution authentique et qui a fait école, que les gens vivent, mais sans savoir exactement ce que c'est. Les peuples tamachèques dans le Sahara sont des peuples qui ont pour habitude le pillage, les rapts, les vols, etc., etc. C'est leur tradition. Et ce n'est pas un problème pour eux. Il arrive qu'à un moment précis de l'année, ils se rencontrent dans un point précis du Sahara pour régler tous les différends. Toi, tu as volé mes chèvres à tel puits. Toi, tu as tué mon frère à telle occasion. Toi, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Et tout le monde est là. Donc, on paye les crimes de sang, on paye les dettes, on rembourse, on se présente des excuses et on planifie la nouvelle année. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et au terme de la résolution de ces conflits-là, on organise une fête. Et c'est cette fête-là que nous appelons le Festival au désert. Et c'est la partie festive que nous avons récupérée pour le montrer à la face du monde. Mais derrière la partie festive, il y a ça. Je donne l'exemple de chez moi, de Gundam. On a eu ici, pendant le temps colonial, un chef célèbre, Amiru Hama Ligel Madan. Gundam, c'est 4 ethnies. Les Peuls, les Tamachèques, les Arabes et les Soirées. Chaque ethnie a un chef. Et tous les chefs se rencontrent au niveau de Amiru Hama Ligel Madan. Quand vous commettez du désordre, un crime ou une malversation, c'est ton chef qui est interpellé publiquement et devant tous les autres chefs pour dire, dans notre cohabitation, dans la relation qui nous a unis depuis plusieurs années, ces relations qui sont faites de mariage, de commerce, d'études, parce que tous les enfants soirées vont étudier en Bourse, le Coran par exemple, et tous les enfants tamachèques viennent en ville. Il faut rendre hommage ici à Mohamed El Mehidi Agataher. C'est lui qui a instauré que tous les enfants tamachèques viennent en ville. Ça fait quoi? Une ferme d'intégration. Ceux qui sont partis étudier le Coran, on leur a mis tamachèque, et ceux qui sont en ville, on se connaît tous. Alors, le problème, il est posé devant toi et on t'oblige à retrouver une solution. Et aussi, l'autre aspect de la justice transitionnelle, le fait de ne plus récidiver. Quand tu tues quelqu'un, on ne te tuera pas, mais tu payes le prix. Et avec la consigne de ne plus récidiver, nous avons cette solution. Nous avons mis un certain nombre de mécanismes socioculturels en place pour prévenir les conflits. Et quand ça arrive, il y a les mêmes mécanismes pour les résoudre. Souvent, ça se résout dans la douleur, mais c'est définitif. Souvent, ça se résout par le dialogue, mais c'est définitif. Souvent, ça se résout par nos us, nos coutumes et nos mœurs, par les cousinages, par les relations de voyage, etc. Mais nous avons dit que cette fois-ci, on n'a pas interrogé nos recettes socioculturelles. Je profite de cette émission-là pour dire que depuis que le Mali connaît ce problème-là, c'est les mêmes gens qui ont toujours parlé des mêmes problèmes, ils n'ont jamais eu de résultats et ils sont restés toujours les mêmes à parler toujours. Et quand un problème est mal posé, il n'aura jamais de solution. Moi, Sango, on ne peut pas me demander d'aller résoudre un problème dans le Mandé. Ce n'est pas pour vouloir avoir une solution, non. Et tout comme tu ne peux pas envoyer un griot du Mandé pour aller parler du monde de son règne chez eux là-bas. Tu veux quelle solution? Donc je dis qu'il y a des recettes dans notre tradition, dans nos sociétés, à travers nos us, nos mœurs et nos coutumes, pour appeler les gens à la raison. Dakono a expliqué comment est-ce que d'un point de vue diabolique, mécanique, on embobine les gens. Nos us et nos coutumes ont la recette de désintoxiquer les gens. Il y a des choses qui ne peuvent pas être au Mali. Un peuple ne peut pas faire la guerre à un dogon. C'est inadmissible, c'est impossible.
Pourquoi c'est le cas aujourd'hui?
Parce qu'ils ont été endoctrinés. Parce que des mains invisibles sont dans le conflit. Parce que des gens qui ont intérêt, les entrepreneurs, ont intérêt à ce que cela arrive pour détruire ce que nous avons
construit. Est-ce que ce n'est pas parce que les communautés elles-mêmes et les dirigeants ont baissé aussi les bras?
Ce n'est pas que les communautés et les dirigeants qui ont baissé les bras. Comment on le dit? On provoque le choc chez toi. On ne te donne pas le temps de réfléchir et de voir clair, de savoir que normalement, en situation de paix, en situation logique, un dogon ne peut pas aller tuer des peuls. Le gars, le dogon, le pauvre, il ne peut même pas parler à sa femme dans la langue dogon. Il est obligé de parler peul pour qu'il se comprenne avec sa femme. Comment il va tuer les peuls? C'est pas possible. Nous, chez nous, dans les régions du Nord, nos tamachèques et nous, on est nés ensemble. On se connaît et on connaît tous le terroir. Le terroir, on le connaît par millimètre et par centimètre. Hein. On sait qui est où et qui habite où. Quelles sont ses mœurs, ses coutumes et ses traditions. Mais je dis qu'il y a une main invisible, des apports extérieurs négatifs qui sont venus ébranler le fondement culturel. Et on n'a pas interrogé ces recettes culturelles-là pour essayer de rétablir.
D'accord, Moussa Touré. Alors, qu'est-ce que la convergence des sources de droit va pouvoir changer dans la situation?
Effectivement, c'est justement le raisonnement que Sango a eu à faire à ce niveau. On s'est dit que, c'est vrai, le droit international humanitaire est une solution qui a été réfléchie, instituée au niveau international. Mais, quoi que nous, en Occident, le droit international humanitaire promet des valeurs humaines. Des valeurs vraiment qui trouvent vraiment leur ancrage au niveau de nos sociétés, au niveau vraiment de notre culture. Donc nous, à travers cette table ronde, l'idée vraiment c'est de libérer la parole pour que les uns et les autres, les différents participants qui sont tous vraiment des fins connaisseurs de ces localités, qu'ils puissent trouver, n'est-ce pas, la jonction entre le droit international humanitaire et ces différentes valeurs culturelles. De notre point de vue, c'est plus simple. C'est plus facile, n'est-ce pas, à rendre les messages digestes lorsque telle disposition du droit international humanitaire est extrapolée avec telle autre disposition de telle coutume, de tel terroir. Donc, à l'issue vraiment de l'exercice, il y a un certain nombre de messages que les acteurs eux-mêmes ont proposés en termes de sensibilisation pour permettre aux uns et aux autres de comprendre qui est défini comme étant civil en cas de conflit armé. Quelles sont les catégories de personnes vraiment qui sont protégées? À quoi renvoie cette protection? Donc voilà un certain nombre de questions vraiment auxquelles, durant deux jours, les acteurs ont répondu. Et nous nous proposons vraiment de partager vraiment les conclusions de cette rencontre afin que ça puisse aider à la sensibilisation, afin que ça puisse vraiment rappeler, n'est-ce pas, à ces communautés-là qui aujourd'hui sont dans une situation de violence sans précédent. Pour les rappeler qu'il y a vraiment des codes, il y a des normes vraiment qui ont régulé la société malienne à un moment donné de l'histoire. Que c'est le fait que le droit international humanitaire statue sur cela ne soit vraiment pas une source de révolte pour eux, parce qu'il y a parmi ces acteurs-là des gens qui, comme l'a dit Baba, vu qu'ils sont opposés à tout ce qui est État, à tout ce qui est Occident, ils peuvent peut-être être amenés à rejeter ces principes-là. Alors que les principes vraiment qui sont promis dans le cadre de ce droit trouvent vraiment des points de convergence dans leur culture et dans leurs coutumes à eux aussi. Donc pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est vraiment pas une réinvention de la roue, c'est des mécanismes qui existent, c'est des valeurs qui existent vraiment dans nos sociétés, essayer de bâtir là-dessus et s'approprier davantage vraiment les normes humanitaires pour une meilleure protection des civils.
D'accord, Baba, au-delà de la sensibilisation, faut-il également des sanctions?
Oui, parce que M. Sango l'a dit tout à l'heure, la récidivise est au cœur de la décision qui était rendue à l'époque. Donc la garantie de non-répétition est fondamentale. Donc c'est ce que la sanction mérite de faire. Mais je voudrais revenir à la table ronde. Il faut dire que la recette est intéressante parce que ce qu'on a vu depuis le début de la crise, c'est très souvent des gens entre eux. C'est-à-dire on appelle les communicateurs traditionnels dans une salle où ils discutent de la crise, des recettes, des solutions. On appelle les autres, des chercheurs, par exemple, entre eux, des historiens, des sociologues. Mais cette table ronde, c'était véritablement divers types d'acteurs, des praticiens, des communicateurs traditionnels, des universitaires, des représentants des populations, donc ceux qui sont au cœur de la chose. Il manquait peut-être les groupes armés. Bon, il manquait tous les groupes armés. Certains étaient représentés. Donc, ça a permis d'avoir cette analyse croisée sur ce qui est présenté comme la recette venue de l'Occident et qui trouvait son alter ego dans nos pratiques, que ce soit culturelles ou culturelles, depuis des années. Et donc, c'était très intéressant d'avoir cette analyse dynamique croisée. Et je pense que dans les recherches de solutions dans la crise au Mali, ça manque beaucoup. Ces espaces-là où on met ensemble des praticiens, d'autres types d'acteurs ensemble pour des analyses croisées.
Est-ce qu'on oublie souvent les populations? Est-ce que cela traduit ça?
Peut-être qu'on n'oublie pas les populations, mais à un certain moment, on a juste l'impression que les gens ont des cases à cocher. C'est comme quand on fait les termes de référence, représentant des communautés, on cause la cache. Est-ce qu'on s'assure que ce soit le bon représentant ou le représentant qu'il convient au type d'activité? Je ne suis pas convaincu. Et donc, tant qu'on est dans ça, tant qu'on est dans la représentation, tant qu'on est dans la volonté de juste cocher des cases, ça va difficilement fonctionner.
D'accord. Vous avez parlé de quelque chose récemment. On a organisé une émission à Gao où les femmes de Gao dénonçaient une situation qui est que parfois, pour représenter les femmes de Gao dans un conflit, ce sont des femmes de Bamako qui y vont. Alors, est-ce qu'il faudrait prioriser les solutions locales dans les résolutions des conflits?
Mais c'est extraordinaire. Vous savez, nous sommes revenus, il a dit... Vous n'avez pas peut-être suivi, mais il l'a dit très méchamment. Il a dit comme des espèces de cases à cocher où le représentant n'est toujours pas qualifié ou bon. Qu'est-ce qui arrive? Un problème de Gao, on trouve des gens de Gao à Bamako pour en parler. Ils ne savent pas que la chose a évolué depuis qu'ils ont quitté et que ça a évolué du jour au lendemain à Gao sur le terrain là-bas. Donc ils restent à Bamako ici, on leur paye des perdièmes. Et c'est surtout ça l'objectif. Et ils ne sont pas au parfum de la réalité locale de Gao. Et ils proposent des solutions pour une situation qu'ils ne connaissent pas. Il faut bien que... C'est un autre débat par rapport aux ONG, par rapport aux bailleurs de fonds. Et il va avoir le courage d'aller sur le terrain. Les femmes de Gao ont décrié cette situation, et pas les femmes seulement. C'est toutes les régions de Gao qui décrivent ça, toutes les régions du Nord. Et quand il y a un don pour des personnes...
D'accord. Il nous reste une minute. Quelle est l'urgence aujourd'hui?
L'urgence, c'est de rencontrer les populations et de leur parler et de prendre leur avis. Ils ont des propositions de bonnes solutions, eux, à la base.
D'accord. Merci. Vous avez 30 secondes.
Merci beaucoup, M. Touré. Je profite pour dire que l'appel de Genève, effectivement, à travers son projet, a contribué à la protection des civils et à la consolidation de la paix. Nous avons initié vraiment ce processus-là à travers la confiance vraiment de nos généreux donateurs, notamment le Luxembourg, le canton de Genève et la Norvège.
D'accord, nous aurons d'autres occasions d'en parler. Le temps est écoulé. Merci Dédié Hamasango, communicateur traditionnel, Baba Dakono, juriste chercheur, et Moussa Itouré, directeur de l'Appel de Genève ou Geneva Call. Le thème du grand dialogue était protection des civils. Quelle convergence entre les différentes sources de droit au Mali? À la régie audio et vidéo, Ting Diara et Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Mandi.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.